Joël Giraud, député actif sur son territoire et à Paris.
Il est une personnalité incontournable des Hautes-Alpes et depuis 2 ans à l'Assemblée nationale où il est le rapporteur général du budget. Poste clé en ces temps de réforme et de recherche d'économie tous azimuts du gouvernement Philippe. Longtemps maire de l'Argentière-l'ABC et également ancien conseiller régional, le député représentant du peuple français est aussi un ambassadeur de son territoire. Fin mai, avec sa collègue Pascal Boyer, Joël Giraud a accompagné et guidé sur le terrain et sur les rails le député Jean-Baptiste Djebari, en charge du pacte ferroviaire qui concerne bien sûr les Hautes-Alpes, la ligne Grenoble-Gap est en souffrance depuis plusieurs années. Autre sujet, sensible à l'accueil des migrants à Briançon comme ailleurs, il déplore le peu d'engagement et de moyens de l'État qui s'en remet au département et aux citoyens. Nous sommes minables, selon lui. Enfin, Joël Giraud défend la retraite aujourd'hui à 62 ans et s'appliquera ses convictions à son propre cas en atteignant cet âge. Il annonce qu'il quittera tout mandat et activité politique dans 2 ans. Joël Giraud se confie sur tous ces sujets au micro de notre collègue de Briançon, Laura Giraud.
Joël Giraud, vous êtes député des Hautes-Alpes. Vous avez accompagné un de vos collègues qui doit remettre un rapport sur les lignes ferroviaires. Votre sentiment sur ce sujet ?
Ben vous savez, en fait, il y a un certain nombre de petites lignes qui ont des travaux extrêmement importants à faire. Et pour ce qui nous concerne, nous avons un problème sur ce plan avec la ligne Grenoble-Vennes, donc la ligne qui nous permet de rejoindre l'ensemble des Hautes-Alpes à Grenoble. C'est une ligne qui a quand même une fréquentation conséquente, mais qui pour autant n'a plus fait l'objet de travaux d'entretien depuis fort longtemps. Alors, si on la refait entièrement, j'irai aux normes actuelles, ça coûte très très cher et bien sûr ça n'est pas en rapport avec le nombre de voyageurs qui le circulent chaque jour. La SNCF aussi s'est bien débrouillée pour qu'il y ait moins de voyageurs, c'est-à-dire plus de correspondance TGV d'un côté, plus de correspondance sur Briançon de l'autre côté. Au bout d'un moment, les voyageurs se lassent un petit peu. Au-delà, la vraie question qui était posée et qu'on voulait poser à Jean-Baptiste Djebari, qui est le chargé du suivi de la loi sur les mobilités au sein de notre Assemblée nationale, c'était de savoir si on pouvait faire un peu un cas d'espèce avec cette ligne, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fasse un minimum de travaux de sécurisation de façon à ce qu'elle ne ferme pas, parce que sans ça elle est appelée à fermer, et qu'ensuite on change les choses, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de matériel mais également de normes, c'est-à-dire de réfection, de signalisation, c'est pas la même chose quand on a que 5 trains dans chaque sens chaque jour ou quand on en a 400. Or en France la norme est la même pour ces voies ferrées, donc l'idée c'est de faire comme dans tous les pays d'Europe, de faire en sorte que ces voies non pas soient négligées, je dirais, ce plan des investissements, mais tout simplement, et des normes qui correspondent à la fréquentation en termes de nombre de trains par jour. Et ce serait pour nous important, car l'idée est de faire en sorte que lorsque la voie ferrée Valence-Vennes va être fermée pour travaux pendant 9 mois d'ici l'année prochaine, tout simplement pour refaire entièrement la voie ferrée, ce qui est très bien pour nous, on puisse arriver à faire passer le Paris-Briançon. Donc moi je suis assez optimiste, parce que Jean-Baptiste Djebari a vu cette ligne, a vu le nombre de gens qui avaient un lundi après-midi, enfin une heure qui était tout à fait banal. On a également rencontré les associations, les cheminots, l'ensemble des personnes qui travaillent de et pour cette ligne, et son rapport sera très favorable, ainsi que celui du préfet Philizot qui est chargé pour l'État de faire un rapport semblable. Donc pour moi, on est sur la bonne voie du sauvetage complet de l'étoile ferroviaire de Vennes, mais il était important que Jean-Baptiste Djebari vienne pour le voir des visu et rencontrer et sentir le pouls d'un pays. Je crois que c'est la bonne façon de comprendre l'intérêt des infrastructures pour un territoire de montagne isolé.
Et vous êtes rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Quelle est votre marge de manœuvre ?
Sans vouloir être prétentieux, un grand journal national disait un jour que c'était le ministre bis des Finances. Ce qui n'est pas faux, c'est qu'on arrive à influer complètement sur la politique de l'État. Alors bon, il y a un cap qui est celui de l'endettement de ce pays. Moi, je suis assez orthodoxe sur ce plan-là. C'est-à-dire que je suis pas le plus dépensier du monde. Cela étant, il y a un moment où on arrive à faire modifier les choses. Regardez sur l'impôt sur la fortune. Lorsque la décision a été prise de supprimer l'impôt sur la fortune et de le transformer en impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire que des gens qui avaient non pas de l'argent dans un circuit et qui pouvaient donc bénéficier à l'économie, mais bien des biens importants immobiliers qui sont des biens qui ne produisent rien pour l'économie. J'avais remarqué qu'il y avait un petit problème par rapport à l'ancien ISF, c'est que tout un tas de signes extérieurs de richesse, qu'ils soient des yachts, qu'ils soient des avions privés, qu'ils soient des voitures de très grosses cylindrées, passaient à la trappe d'une fiscalité qui était était une fiscalité effectivement relativement importante, mais qui était une fiscalité sur ce qu'on appelait les signes ostentatoires de richesse. Le gouvernement a été tout à fait défavorable à ce qu'on continue à les taxer. Moi, j'étais favorable au nom de, je dirais, d'une certaine morale qu'on continue à avoir une fiscalité forte là-dessus. Le bras de fer a commencé et le bras de fer s'est soldé par une victoire de ma part. Donc, c'est la démonstration à partir d'un petit exemple, mais d'un exemple quand même de ce que l'on peut faire. La question qui va se poser aussi bientôt, c'est la question de, par exemple, de l'argent qu'on doit mettre sur les infrastructures, notamment ferroviaire. Il y a des manques de financement à l'agence de financement des infrastructures de transport, tout simplement parce que ils sont alimentés par les radars. Et les radars ont été tous cassés et j'ai l'impression que ça continue puisque je vois de nouveaux radars qui sont à nouveau cassés. Alors les gens qui font ça, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur plusieurs médias à ce sujet. Déjà, ils mettent en danger la sécurité des personnes, mais en plus, il faut qu'on sache que c'est de l'argent en moins, qui venaient avant pour sauver, par exemple, les petites lignes ferroviaires, qui venaient également pour les infrastructures routières dans des régions comme les nôtres. Eh bien, le but, c'est de trouver des nouvelles sources de financement pour les collectivités locales, cette fois-ci. Ça fait des années que je souhaitais que les petites communes touristiques bénéficient d'une dotation complémentaire. Eh bien, on y est arrivé. C'est-à-dire que les communes qui ont un potentiel financier qui est inférieur à la moyenne, je ne parle pas des grandes stations, mais bien des petites stations, il s'agit des stations village du Quéra, des stations village du Champsaur par exemple, Saint-Léger, Ancel, ce sont des communes qui ont des dépenses sans commune mesure pour pouvoir garder les habitants chez eux par rapport à ces grandes stations, ça pèse beaucoup. Eh bien, on est arrivé à faire en sorte qu'ils aient ces dotations complémentaires, dans certains cas c'est 10 000, 20 000, 30 000 euros par an en plus en fonctionnement. Ça, c'est une annuité d'emprunt. Donc ça permet à ces communes de continuer à investir, et sur le volet environnemental, pour la première fois, on a mis en place une dotation pour les communes qui ont des sites Natura 2000, qui sont des sites de préservation qui concernent plus de 75% du territoire communal. Vous en avez un bon exemple ici à l'Argentière, puisque vous avez 80% du territoire communal qui est concerné par des zones Natura 2000. Ça demande tout simplement des études d'impact complémentaires, de ce genre de choses. C'est aussi un atout, parce que l'environnement est un atout dans une région comme la nôtre. Mais pour autant, lorsque une collectivité amène des aménités positives à la nation, il faut bien qu'il y ait une compensation. Elle existe pour les parcs nationaux, elle existait du moins pour les parcs nationaux, elle existe désormais pour les zones Natura 2000. Je pense que c'est une bonne chose et ça prouve que le rapporteur de budget peut servir à quelque chose.
Et l'accueil des migrants, vous connaissez bien, notamment à Briançon. Vous avez déclaré à un quotidien « on est minable ». Vous pouvez préciser ?
Ouais, je trouve qu'on est minable parce que bon, on est face à des situations. Vous savez, j'ai fait modifier la loi sur les migrations justement pour que un peu plus d'humanité passe déjà dans la façon dont on accueille les migrants. C'est-à-dire que je comprends que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je suis très conscient aussi qu'il existe des réseaux de passeurs dont les objectifs sont vraiment financiers purement et en aucun cas des objectifs humanitaires. Pour autant, là, il y a une définition européenne des personnes en situation de fragilité, et cette situation de fragilité n'était pas prise en compte dans la loi. Ce sont les femmes enceintes, des enfants accompagnés ou pas des parents, de personnes qui demandent une attention particulière, ou des personnes malades, enfin peu importe. Il y a eu des incidents, notamment dans la gare de Bardonnay, qui a dansé à Modane, beaucoup plus que chez nous sur ce plan-là. J'avais fait modifier la loi pour qu'il y ait une obligation de prise en compte. J'avais fait modifier également la loi pour qu'on ne puisse pas interpeller partout sur le territoire national quelqu'un en disant vous retournez directement chez vous, c'est-à-dire sans passer par la case justice, au motif qu'on vous considère comme non admis sur le territoire. Donc j'ai fait en sorte qu'il y ait une bande, qui est une bande de 10 km, où on peut considérer que quelqu'un n'est pas rentré sur le territoire et donc, entre guillemets, non pas expulsable, mais peut être ramené à la frontière. Mais ce qui est vrai sur 10 km n'est pas vrai sur 200 km. Donc là, on relève, j'allais dire, du droit commun des expulsions. Ça fait partie des choses que j'ai fait modifier et qui sont, à mon avis, qui vont dans le bon sens. Mais si on est minable à l'heure actuelle, si j'ai employé ce terme, c'est parce que je vois que, de toute façon, il arrive des personnes... À Briançon, c'est un vrai problème et un vrai sujet, mais ça n'est pas la seule ville où c'est un vrai problème. Et je trouve que l'État devrait mieux participer à l'accueil de ces migrants. Il n'est pas normal que, quand ces migrants sont en résidence à Briançon, pour donner un seul exemple, ce soit des associations ou des particuliers qui se cotisent pour payer le billet de train, pour les emmener au centre qui doit faire les formalités administratives à Marseille. Tout cela devrait être pris en charge solidairement par l'État et pas par des particuliers. Il en est de même lorsque des migrants mineurs vont au conseil départemental, puisque c'est le lieu d'accueil pour les mineurs, et qu'on doit là encore payer, association, bénévole ou autre, le billet de train ou de bus pour aller à Gap. Je trouve que la prise en charge devrait être effectivement plus globale, de façon à ce que les gens qui font cette mission d'accueil pour des conditions, qui sont des conditions humanitaires, bien évidemment, il ne s'agit pas de financer des personnes qui, là encore, auraient de mauvaises intentions, ou voudraient garder, je vais être franc aussi, un peu captif, un certain nombre de migrants qui ont passé la frontière, parce que comme ça leur fait une raison politique d'exister. Mais dès lors qu'on se met sur le plan de l'humanité, il faut faire en sorte que les gens qui ont une obligation lorsqu'ils arrivent sur le territoire, cette obligation soit prise en charge par l'État et pas par des particuliers généreux.
Une dernière question. Vous avez dit que vous arrêtiez tout mandat politique à 62 ans. C'est bientôt pour vous et votre choix est-il irréversible ?
Complètement. D'abord, j'ai toujours prôné la retraite à 62 ans. Donc, dans ces cas-là, faut pas la prôner pour les autres et pas pour soi. Et puis parce que je crois qu'au bout d'un moment, bon, sans doute, on a peut-être moins de dynamisme, on a peut-être moins d'idées, on a le droit aussi de changer un peu de vie. Je vais être très franc avec vous. Je vois certains de mes collègues qui ont largement dépassé la barre des 62 ans. Et je me dis que quelquefois, il vaut mieux éviter que la vieillesse soit un naufrage. Donc, il y a toujours les cas particuliers. Il y a toujours les gens qui sont assez exceptionnels, même à 90 ans. Mais dans 90% des cas, tel n'est pas le cas. Puis je vous dis, moi j'ai toujours été persuadé qu'il fallait laisser la place parce que il y a des jeunes, il y a des gens qui ont des idées nouvelles. Il faut que ces gens arrivent en politique. En fait, je veux dire, on va pas sacrifier des générations entières. Le renouvellement politique, c'est pas tous les 70 ans. Enfin, sans ça, c'est d'une tristesse infinie. Donc la décision est irréversible. Alors ça ne veut pas dire que si on me donne une mission particulière à faire, si on me dit qu'on a besoin d'un expert d'une question politique internationale qui parle allemand et italien, à Bruxelles, j'irai pas faire un tour à Bruxelles si on me le demande. Mais plus dans le cadre d'un mandat électif, dans le cadre d'une mission particulière, je voudrais bien la faire. Et si on me la donne pas, je serais très content d'aller à la pêche quelque part ou de partir dans des pays d'Europe du Nord que je n'ai pas encore tous visités et qui sont mon dada. Vous savez, je crains la chaleur, donc on verra plus rarement dans des pays chauds, surtout avec le réchauffement climatique. Par contre, sur un glacier à Reykjavik, je vois bien y rester un mois ou deux.